la diminution de la tristesse lors d'une séance CIAM augmenterait le niveau énergétique du patient et rendrait ainsi possible la perception d'un contact. Ce n'est qu'une hypothèse qui reste à être corroborée par d'autres travaux et par d'autres méthodes. Établir une voie de communication entre les mondes nécessite-t-il autant pour les vivants de monter que pour les défunts de descendre? Quel type d'énergie cela implique-t-il? Pierre Jonas, l'un des médiums que j'ai interrogé dans le test, m'a décrit le mécanisme énergétique qui lui permet, en tant que médium, de percevoir les messages des défunts. Cette notion est sans conteste une piste fascinante à explorer dans le futur, tant pour les physiciens que pour des chercheurs dans d'autres disciplines. Evelyne est d'ailleurs à l'origine d'un très ambitieux projet de recherche internationale dont l'objectif est, comme cela a été fait avec les EMI, de mieux comprendre la phénoménologie des VSCD, recueil de témoignages dans différents pays, analyse et classification, étude de l'impact à moyen et long terme sur le processus de deuil, etc. Pour l'angle énergétique, Evelyne invite les physiciens quantiques à se pencher sur la question. Par ailleurs, elle a également été intriguée par un phénomène qui peut se produire parfois lors d'un VSCD et qu'elle a appelé une quasi-paralysie passagère. En effet, j'ai reçu plusieurs témoignages décrivant une impossibilité de bouger et de parler lors d'un VSCD. Dès que le contact se termine, après quelques secondes, quelques minutes tout au plus, la personne peut à nouveau parler et se mouvoir normalement. Ces descriptions font penser à un niveau d'énergie très bas lors du contact. Un cas de figure similaire peut se produire au moment du décès d'un proche qui a lieu à distance. Je pense à une femme qui s'est sentie vidée de toute son énergie au moment où sa cousine était en train de mourir, de manière inattendue, et dans une autre ville. Elle n'avait ni douleur ni maladie, mais une impression atroce que sa force de vie la quittait. À l'heure précise du décès de sa cousine, elle a retrouvé un niveau d'énergie normal. Cette notion d'énergie revient dans de nombreux contacts, tout comme dans les témoignages des médiums qui soulignent que certaines âmes peuvent, dans des circonstances particulières, rester collées à des lieux ou des êtres et se nourrir de leur énergie, de leurs émotions, comme le défunt alcoolique en recherche d'un bar dont parlait Sylvie Ouellet plus haut. À côté de cette question d'énergie, certains parlent de lumière plutôt que d'énergie. Un autre élément à retenir est que la plupart des témoignages décrivent une expérience spontanée qui se produit à un moment où l'endeuillé n'est pas en train de penser au défunt, de pleurer ou dans un état de profond désespoir, mais plutôt quand son attention est ailleurs, qu'il s'occupe de ses tâches quotidiennes. Beaucoup de ces VSCD se produisent dans la nuit ou le soir, dans des périodes où notre mental est peut-être moins vigilant et s'accorde un répit. Des instants où la tristesse s'éloigne temporairement, des moments sans doute ayant quelques similitudes avec les états méditatifs, où notre cerveau ultra-actif, la majeure partie du temps, se trouve dans un état légèrement altéré de conscience. Ainsi donc, il nous serait possible de provoquer ces rencontres? Chapitre 27. Contact induit. Aurélie a perdu son frère Bertrand il y a 15 ans. Depuis ce drame, ses parents et elle cherchent des réponses rationnelles et étayées à cette question si vertigineuse : que se passe-t-il après la mort ? Où se trouve Bertrand ? Poursuit-il sa vie quelque part ? À quoi ressemble cette existence ? Profitant d'un voyage de toute la famille en Californie, Aurélie a eu l'idée de prendre rendez-vous avec une thérapeute pratiquant la CIAM, la communication induite après la mort, pour sa mère Pascal et elle. Pascal, ayant peur de ne pas avoir un niveau d'anglais suffisant, Denis, le mari d'Aurélie, accepte de jouer le rôle d'interprète tout en étant le témoin neutre de l'entretien. La thérapeute les fait asseoir côte à côte sur le canapé de son cabinet. L'entretien commence. Tout se déroule normalement jusque vers la fin de la séance, quand il est demandé à la maman d'Aurélie d'entrer en phase de relaxation et de penser à son fils. Est-ce le silence? Un effet de mimétisme? Bizarrement, Denis se sent lui aussi glissé dans un état méditatif. Tout le haut de son corps lui semble plus stable, ancré, dans un état profond de bien-être. Puis, voilà qu'il se met à ressentir comme un halo d'énergie englobant toute sa tête jusqu'à la base du cou. Une enveloppe d'énergie épaisse et gonflée, une énergie puissante et agréable. C'est une sensation intense. J'ai alors senti ma tête pivoter vers la gauche, là où était assise ma belle-mère. C'était cette énergie qui provoquait la rotation, pas ma volonté. On me tournait la tête. Tandis que sa tête pivote, une phrase s'imprime soudain dans l'esprit de Denis. « Maman, je t'aime. » J'avais les yeux fermés et j'ai vu comme un écran gris-blanc sur mes paupières avec ses lettres majuscules en noir. C'est apparu comme un flash, puis ça a disparu. Tout s'enchaîne. Denis a alors la vision du haut du corps d'un homme de dos dont les deux larges bras s'ouvrent et enserrent sa belle-mère, tandis que sa tête se pose contre celle de Pascal. Durant ces secondes, Denis ressent autour d'eux une grande énergie d'amour. Stupéfait, sans comprendre ce qu'il se passe, Denis n'ose parler ni réagir, de peur de faire quelque chose qui parasite la séance et empêche sa belle-mère d'avoir le contact qu'elle espère avec son fils. Il essaie de bouger la tête, de détourner son attention de cette vision pour regarder ailleurs dans la pièce, tentant de se couper de ce qu'il vit. Mais malgré ses efforts, la sensation d'énergie revient de plus en plus intense, à tel point que n'y tenant plus, comme si tout son corps avait besoin d'extérioriser ce qui est en train de lui arriver, il interrompt la séance et explique ce qu'il perçoit. Il regarde sa belle-mère, lui parle de cette vision d'un homme de dos l'enserrant, du message d'amour qu'il a d'abord capté, puis il la prend lui-même dans ses bras. Une énorme émotion est montée en moi et m'a fait fondre en larmes. En tenant ma belle-mère dans mes bras, j'ai ressenti un immense soulagement et de la joie. Comment interprétez-vous cela? Mes larmes étaient celles de Bertrand, des larmes de joie qu'il ressentait d'avoir réussi à laisser un message incroyable à sa maman. J'ai ressenti ces émotions en même temps que je les partageais. Pascal a vécu deux sentiments contradictoires. D'une part, une sorte de frustration de ne pas avoir ressenti elle-même cette présence, et d'autre part, un immense sentiment de gratitude pour ce merveilleux cadeau validant son espérance dans une vie qui se poursuit au-delà de la mort. La nature même de son gendre, habituellement très réservée, l'a conforté dans la certitude qu'un tel comportement ne pouvait que lui avoir été en quelque sorte imposé. Cette expérience a de son côté totalement bouleversé Denis. De par la beauté et l'intensité de ce qu'il a vécu, et cette sensation si forte d'avoir eu un tel contact physique avec Bertrand, a renforcé sa conviction, ainsi que celle de sa femme et de ses parents, que la mort est un moment de transition, pas une barrière étanche entre des vivants et des disparus. Je suis convaincu que nous restons dans le même monde et que des contacts de toutes sortes sont possibles entre nous. Je ne remercierai jamais assez Bertrand pour ce cadeau qui rend notre quotidien tellement plus beau, tellement plus important, chargé de sens et de confiance dans la vie. Chapitre 28. Contact en vol. Octobre 2013, 4 mois après la mort de mon père. L'avion a décollé de Nice en direction de Paris depuis une 20aine de minutes. Le ciel est dégagé. Je suis assis contre le hublot, à gauche de l'appareil. Autrefois, je passais à chacun de mes vols des heures à contempler la terre depuis le ciel, jamais lassé de ces incomparables tableaux vivants, des dessins sans cesse renouvelés de l'écorce du monde. Mais aujourd'hui, je peux effectuer un voyage entier sans jeter un œil dehors. Pourtant, à un moment de ce vol plutôt banal, je me souviens avoir été collé au hublot, l'esprit un peu ailleurs, le regard dans le vide, contemplant le paysage à l'extérieur de l'avion qui filait dans l'air glacé et pur. L'altitude de croisière a été atteinte, étincelante haute atmosphère bleue. Ébloui par la luminosité, je plisse les yeux et mes pupilles se contractent jusqu'à devenir minuscules. Au sol, un tapis de hautes montagnes désertes. La brume des chaleurs de la plaine s'est dissipée. Le relief du paysage est net. Montagnes au ton gris-rouge. Sous les ailes qui me ramènent vers le nord, se dessine la majesté d'un pays sauvage. Je ferme mon livre et contemple la terre, encore étonné par tant de majesté. Sur ma gauche, vers l'ouest, la vue qui s'offre à moi est composée de montagnes rondes et pas encore trop escarpées, figurant davantage la masse d'un plateau plutôt qu'une succession de vallées et d'arêtes rocheuses. Pas de traces de neige, pas de route visible, ni de village, ni même de hameau. Le désert à 20 minutes de Nice. Quel est donc cet endroit qu'instantanément je rêve de revenir visiter depuis le sol? Pas d'écran montrant la carte du trajet sur cet appareil effectuant un vol intérieur. Alors, poussé par je ne sais quel désir profond, j'interpelle un steward. En près de 3 décennies de voyage à travers la planète, je ne sais combien d'avions empruntés. C'est bien la première fois que je suis poussé à m'enquérir de la localisation précise d'un lieu survolé auprès de l'équipage. Auriez-vous la gentillesse de demander au pilote les coordonnées GPS de notre position actuelle? Les coordonnées GPS? Me demande-t-il un peu surpris. Oui, je trouve le paysage magnifique et je suis très curieux de savoir où nous sommes. Le jeune homme disparaît à l'avant. L'avion poursuit sa remontée vers le nord. Derrière le hublot, des vallées se creusent, des reliefs s'accentuent, des lambeaux de neige éternels apparaissent sur la dentelure des arêtes. Le jeune homme revient bientôt avec les chiffres demandés. Je les note avec application. Il ajoute « Nous allons bientôt survoler le massif des Écrins. Nous sommes non loin de Briançon. La ville sera visible sur la droite de l'appareil. Nous arrivons bientôt au-dessus du lac de Serponçon. » Je suis foudroyé. À la seconde. Les Écrins. Exactement comme au musée de New York, me voilà brusquement bousculé par un trouble intense et je me mets à pleurer. Mon émotion si vive est incontrôlable. Je colle à nouveau mon front contre le hublot froid. En effet, voici un lac à la surface noire et lisse, comme une lame depuis cette altitude. Il a la forme d'un boomerang. Mais c'est le mot « écrin » qui a tout déclenché. C'est lui qui me convainc à l'instant qu'une nouvelle fois mon père est en moi, car ce massif alpin fait partie de notre famille. La soudaineté de mon émotion, sa violence totalement inattendue, provoquée cette fois par la beauté d'un paysage et l'évocation d'un nom si chargé de sens. Le massif des Écrins. La terre des plus beaux souvenirs d'enfance de mon père, la terre de notre famille. La terre des mémoires heureuses. Et voici que j'aperçois à l'ouest le massif du Vercors, alors que l'avion perdu dans le ciel suit la ligne de cette longue vallée qui le borde. Nous sommes probablement tout juste à la verticale du pont de Claix où papa connut tout jeune enfant ses plus puissantes joies avant-guerre. Dans le bonheur inconscient de la fin des années 20, la masse imposante, presque inquiétante, folle du Vercors le bouleversa tellement que naquit alors sa passion organique pour la géographie. Il avait 2 ans. Elle ne l'a jamais quitté. Ce paysage vivant. Puis, c'est Grenoble qui avance lentement, et le massif de la Chartreuse encore au nord. Ces noms recèlent des trésors de souvenirs dans ma famille. Leur localisation est difficile pour moi, qui peine à les situer sur une carte, mais pour mon père, ils sont le théâtre des instants les plus heureux de son existence, le lieu de naissance d'un amour infini pour les paysages. Et voilà que mon père, qui semble enclin à venir un peu en moi de temps à autre, les observe à nouveau à travers moi, depuis ce premier regard nonchalant que j'ai porté à travers le hublot après avoir quitté la Provence. J'en suis convaincu. C'est lui qui, reconnaissant instantanément avec mes yeux ce que nous survolions, a pressé mon inconscient afin que je m'adresse au steward, que j'entende le nom massif des écrins et que je comprenne. C'est la deuxième fois qu'il parvient à me manifester sa présence en dehors d'un rêve. Je n'en ai pas de preuve. Comment une expérience si subtile et passagère pourrait-elle passer au tamis de l'expérimentation ? Mais pour la deuxième fois, l'émotion forte que je ressens, le caractère inattendu de l'expérience et la coïncidence entre ce qui déclenche mon émoi et un élément important de la vie de mon père, tout cela m'invite quelques minutes à renoncer en douceur à mes doutes insatiables. Notre corps, au fil des témoignages, apparaît comme un espace possible de rencontre, une antenne capable de capter des énergies. L'endroit où des messages situés au-delà des mots se transmettent depuis les êtres qui peuplent l'invisible jusqu'à notre mental. Alors, le temps de ce moment suspendu, je sais que mon père est vivant et que la mort est un leurre. Chapitre 29. 36 Quai des Orfèvres. Patrick Manresa est un ancien policier, aujourd'hui revenu sur ses terres pyrénéennes. En tout, il aura passé 23 ans en région parisienne, commençant au groupe criminel du service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne, puis rejoignant la brigade criminelle de Paris, le fameux 36 Quai des Orfèvres. D'abord au sein du groupe d'enquête antiterroriste, puis à la section de droit commun. Être flic à la crime, c'est être confronté à une des parts les plus obscures de l'humanité. Durant ses années de service, Patrick a certes croisé des meurtriers repentants, mais aussi d'autres qui avaient le mal chevillé au corps. Des hommes dont rien ne peut effacer de son esprit le regard si sombre, même des années après. Des regards qui font peur. À la crime du Val-de-Marne, Patrick a développé un réel savoir-faire, notamment en matière d'interrogatoire des suspects. C'est dans ce domaine qu'il se trouve le plus à l'aise. Il arrive à ressentir les gens, à apercevoir leur mal-être, leurs failles, et ainsi parvient à les conduire plus facilement à se confier ou à avouer. Il est doué pour ça, et cette réputation l'a suivi dans la capitale. Se doute-t-il à l'époque que son talent de flic cache une disposition plus inhabituelle ? En effet, au fil des années, Patrick commence à se demander si ses qualités d'interrogateur ne viendraient pas d'une sensibilité encore largement sous-employée. Car, sans qu'il en soit totalement conscient au début, ses ressentis s'imposent avec de plus en plus de netteté, d'évidence. Son intuition se développe. Ça en devient déstabilisant, perturbant dans certaines situations où son métier requiert un cartésianisme absolu. Je dois dire que, malgré moi, je ressentais des choses subtiles. Je captais, mais j'étais incapable d'en comprendre la provenance. Vous captiez quoi ? Quand les gens me mentaient, par exemple. Ou alors, soudain, une info importante me venait, comme ça, sans que je sache comment. Je ressentais aussi l'état émotionnel ou même physique des gens. Patrick ne peut pas se confier au sein de son service. Intuition, perception subtile, sensibilité de plus en plus accrue aux énergies et aux présences ne sont pas des outils a priori très adaptés aux enquêtes criminelles. Le travail de flic s'appuie sur des faits objectifs et non sur des perceptions. Pour ses collègues, Patrick a un bon feeling pour les interrogatoires et est considéré comme un bon enquêteur. C'est tout. Mais petit à petit, au hasard des rencontres, Patrick découvre que sa sensibilité cache en réalité un don pour percevoir les déséquilibres chez les gens et les soigner. Il se documente, se forme, puis commence à pratiquer, à guérir avec les mains. Son entourage d'abord. Enfin, Est-ce lui qui guérit? Patrick a conscience d'être un canal plutôt qu'un acteur. Il observe qu'une énergie le traverse pour aller vers les personnes sur lesquelles il pratique un soin. Mais pour être efficace, il ne doit pas penser. Simplement être concentré afin que ses mains se placent d'elles-mêmes à l'endroit en souffrance. Quand il se laisse ainsi guider, les résultats sont là. Les flics sont rationnels, mais pragmatiques, et petit à petit, les 6 collègues de son groupe au 36 constatent que les mains de Patrick, ça marche. Au cours de ses séances de magnétisme, Patrick s'aperçoit en outre qu'il accède à des informations intimes, ayant des flashs sur des éléments de la vie de ses copains. Ça bluffe les collègues. Il ne maîtrise absolument pas ce phénomène qui survient sans qu'il s'y attende. Cette confiance en ses dispositions bizarres permet à Patrick de s'ouvrir davantage au sein de son service et de confier qu'il est parfois sujet à certains ressentis dans le cadre des enquêtes. Avec les années, ces ressentis vont jusqu'à des sensations de présence, de messages transmis par des défunts. Car ce point aussi devient un élément de sa réalité. Patrick perçoit un monde au-delà du visible. Encore une fois, c'est par expérience directe, par le terrain, que le flic se rend à l'évidence. Il sent ce qu'il pense être des défunts, parfois devant un cadavre dont il voit l'esprit encore présent à côté du corps. Pour autant, jamais il n'essaie d'entrer en communication avec eux. Au mois d'août 2002, le groupe de Patrick est saisi par le parquet de Paris d'une enquête suite à la mort par asphyxie d'une personne âgée survenue au mois de juin dans une cité du 18e arrondissement. L'investigation préalable a bien été menée par le commissariat de quartier, mais sans résultat. Patrick et ses collègues héritent d'un dossier bien maigre dans lequel ne figure pas même la photographie de la personne décédée. Les expertises et les quelques auditions du voisinage leur apprennent juste que la porte d'entrée de la victime a été enflammée volontairement, des traces de carburant ont été relevées et que cet incendie a provoqué son décès. L'enquête part de zéro. À l'époque, Patrick vient d'obtenir son grade d'officier de police judiciaire. Son chef de groupe le désigne pour faire les constatations lors de la perquisition. La défunte habitait un petit appartement situé au 15e étage. Arrivant sur les lieux, Patrick pénètre seul dans la chambre à coucher. Face à lui se trouve un lit à 2 places défait. Toute la pièce est noircie. Il y a de la suie partout. Les draps en sont recouverts également, sauf à l'endroit où se trouvait le corps. Traces macabres en négatif sur drap sombre. La vision de cette empreinte sur le lit conduit Patrick à penser que la dame a voulu se lever, mais n'en a pas eu le temps, manifestement saisie par la mort assez rapidement. La victime a quand même dû comprendre qu'elle allait mourir, pense-t-il. Et à cet instant précis, Patrick sent une présence dans la pièce, sur sa droite. Il connaît la disposition de la chambre. Son cerveau de flic a mémorisé l'aménagement dès son entrée sur les lieux. Il sait qu'une fenêtre occupe tout un pan de mur et qu'un tabouret de couleur orange se trouve devant. Il est encore dans l'encadrement de la porte et même s'il tourne le dos à la fenêtre, il sait qu'il est impossible qu'un de ses collègues ait pénétré dans la pièce puisqu'il en condamne l'accès avec son corps. Par réflexe, il tourne quand même la tête en direction de cette sensation de présence et là, stupeur, une dame âgée est assise sur le tabouret. Je voyais les traits de son visage très distinctement. À cet instant, Patrick sait pertinemment qu'elle n'est pas réelle. C'est une sorte d'apparition et c'est très déstabilisant. Est-ce la victime de l'incendie qui se manifeste? Ou Patrick est-il en train de délirer? Comme si elle réagissait au fait qu'on la voit, elle s'adresse immédiatement au flic, par télépathie. Patrick n'entend pas de mots, mais le sens des phrases apparaît dans son esprit. Et la dame est en colère. Elle affirme avec véhémence que ce sont des jeunes qui ont mis le feu à sa porte d'entrée. Devant la violence de l'apparition, Patrick continue à douter de lui et se demande s'il n'est pas en train de tout imaginer, voire de fondre un fusible, comme il dit. En un mot, d'halluciner. C'est comme si elle lisait dans mes pensées. C'est-à-dire, comme si elle percevait mes doutes. Elle m'affirme avec énergie qu'elle est bien là et que je suis en mesure de la voir et également de l'entendre. J'imagine que tout va assez vite. Quel est votre sentiment ?
Je ne suis sûr de rien.
Il me semble pourtant bien la voir, et en plus, j'ai l'impression d'avoir accès à des informations à son sujet. Elle aurait un caractère bien trempé. Me viennent des images du film Tati Daniel, comme si je devais comprendre qu'elle ressemblait à l'héroïne de ce film. Une vieille dame pas cool du tout. Mais honnêtement, je n'étais pas dans mon assiette, et je doutais de mes perceptions. Et c'est curieux, parce que c'est comme si elle me sentait. Elle captait mon manque d'assurance. Ça l'a encore plus énervée, et avec encore plus de virulence, elle a redit